Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
Deuxième partie, du convive des dernières fêtes, des contes cruels. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, Contes cruels par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam, Le convive des dernières fêtes, deuxième partie. Sur ces entrefaites, Susanna quitta le piano. Je cueillis un bouquet sur la table et vins le lui offrir avec des yeux railleurs. « Vous êtes, dis-je, une diva. Portez l'une de ces fleurs pour l'amour des amants inconnus. » Elle choisit un brin d'hortensia qu'elle plaça, non sans amabilité, à son corsage. « Je ne lis pas les lettres anonymes, » répondit-elle en posant le reste de mon sélam sur le piano. La profane et brillante créature joignit ses mains sur l'épaule de l'un d'entre nous, pour retourner à sa place sans doute. « Ah, froide Susanna !» lui dit C en riant. « Vous êtes venue, ce semble, au monde à la seule fin d'y rappeler que la neige brûle. » C'était là, je pense, un de ces compliments alambiqués, tels que les déclins des soupers en inspirent, et qui, s'ils ont un sens bien réel, ont ce sens fin comme un cheveu. Rien n'est plus près d'une bêtise, et, parfois, la différence en est absolument insensible. À ce propos élégiaque, je compris que la mèche des cerveaux menaçait de devenir charbonneuse et qu'il fallait réagir. Comme une étincelle suffit, parfois, pour en raviver la lumière, je résolus de la faire jaillir, à tout prix, de notre convive taciturne. En ce moment, Joseph entra, nous apportant, bizarrerie, du punch glacé, car nous avions résolu de nous griser comme des pères. Depuis une minute, je regardais le baron Saturne. Il paraissait impatient, inquiet. Je le vis tirer sa montre, donner un brillant à Antonie et se lever. « Par exemple, seigneur des lointaines régions, m'écriai-je, à cheval sur une chaise et entre deux flocons de cigares, vous ne songez pas à nous quitter avant une heure. Vous passeriez pour mystérieux, et c'est de mauvais goût, vous le savez. » « Mille regrets, me répondit-il, mais il s'agit d'un devoir qui ne peut se remettre et qui, désormais, ne souffre plus aucun retard. Veuillez bien recevoir mes actions de grâce pour les instants si agréables que je viens de passer. « C'est donc vraiment un duel ?» demanda, comme inquiète, Antonie. « Bah ! M'écriai-je, croyant, effectivement, à quelque vague querelle de masque. « Vous vous exagérez, j'en suis sûr, l'importance de cette affaire. » Votre homme est sous quelque table. Avant de réaliser le pendant du tableau de Jérôme où vous auriez le rôle du vainqueur, celui d'Arlequin, envoyez le chasseur à votre place, au rendez-vous, savoir si l'on vous attend. En ce cas, vos chevaux sauront bien regagner le temps perdu. Certes, appuya C tranquillement, courtisez plutôt la belle Susanna qui se meurt à votre sujet. Vous économiserez un rhume et vous vous en consolerez en gaspillant 1 ou 2 millions. Contemplez, écoutez et décidez. Messieurs, je vous avouerai que je suis aveugle et sourd le plus souvent que Dieu me le permet, dit le baron Saturne. Et il accentua cette énormité inintelligible de manière à nous plonger dans les conjectures les plus absurdes. Ce fut au point que j'en oubliais l'étincelle en question. Nous en étions à nous regarder, avec un sourire gêné, les uns les autres, ne sachant que penser de cette plaisanterie, lorsque, soudain, je ne pus me défendre de jeter une exclamation. je venais de me rappeler où j'avais vu cet homme pour la première fois. Et il me sembla, brusquement, que les cristaux, les figures, les draperies, que le festin de la nuit s'éclairaient d'une mauvaise lueur, d'une rouge lueur sortie de notre convive, pareille à certains effets de théâtre. « Monsieur, chuchotai-je à son oreille, pardonnez si je fais erreur, mais il me semble avoir eu le plaisir de vous rencontrer, il y a 5 ou 6 ans, dans une grande ville du Midi, à Lyon, je suppose, vers 4 heures du matin, sur une place publique. » Saturne leva lentement la tête et, me considérant avec attention, « Ah, dit-il, c'est possible. » « Oui, continuai-je en le regardant fixement aussi. Attendez donc, il y avait même sur cette place un objet des plus mélancoliques, au spectacle duquel je m'étais laissé entraîner par 2 étudiants de mes amis et que je me promis bien de ne jamais revoir. « Vraiment ? » dit M. Saturne. « Et quel était cet objet, s'il n'y a pas indiscrétion ?»« Ma foi, quelque chose comme l'échafaud, une guillotine, monsieur, si j'ai bonne mémoire. » « Oui, c'était la guillotine. Maintenant, j'en suis sûr. » Ces quelques paroles s'étaient échangées très bas, oh, tout à fait bas, entre ce monsieur et moi. C et les dames causaient dans l'ombre, à quelques pas de nous, près du piano. « C'est cela, je me souviens, » ajoutai-je en élevant la voix. « Hein ? Qu'en pensez-vous, monsieur ? Voilà, voilà, je l'espère, de la mémoire. Quoique vous ayez passé très vite devant moi, votre voiture, un instant retardée par la mienne, m'a laissé vous entrevoir aux lueurs des torches. La circonstance incrusta votre visage dans mon esprit. Il avait, alors, justement l'expression que je remarque sur vos traits à présent. « Ah ah !» répondit M. Saturne, « c'est vrai. Ce doit être, ma foi, de la plus surprenante exactitude, je l'avoue. » Le rire strident de ce monsieur me donna l'idée d'une paire de ciseaux miraudant les cheveux. Un détail, entre autres, continuai-je, me frappa. Je vous vis de loin descendre vers l'endroit où était dressée la machine et, à moins que je ne sois trompé par une ressemblance... « Vous ne vous êtes pas trompé, cher monsieur, c'était bien moi, » répondit-il. À cette parole, je sentis que la conversation était devenue glaciale et que, par conséquent, je manquais, peut-être, de la stricte politesse qu'un bourreau de si étrange acabit était en droit d'exiger de nous. Je cherchais donc une banalité pour changer le cours des pensées qui nous enveloppaient tous les deux lorsque la belle Antonie se détourna du piano en disant avec un air de nonchalance « À propos, mesdames et messieurs, vous savez qu'il y a, ce matin, une exécution ?»« Ah ! » m'écriai-je, remué d'une manière insolite par ces quelques mots. « C'est ce pauvre docteur de la paix, » continua tristement Antonie. « Il m'avait soigné autrefois. Pour ma part, je ne le blâme que de s'être défendu devant les juges. Je lui croyais plus d'estomac. Lorsque le sort est fixé d'avance, on doit rire, tout au plus, il me semble, au nez de ses robins. Monsieur de la paix s'est oublié. « Quoi ? C'est aujourd'hui, définitivement ? » demandai-je, en m'efforçant de prendre une voix indifférente. « À 6 heures, l'heure fatale, messieurs et mesdames, » répondit Antonie. Ossian, le bel avocat, la coqueluche du faubourg Saint-Germain, est venu me l'annoncer, pour me faire sa cour à sa manière, hier au soir. Je l'avais oublié. Il paraît même qu'on a fait venir un étranger. » Note de la lectrice. Ici suit un point d'exclamation entre parenthèses. Fin de la note. « Pour aider monsieur de Paris, vu la solennité du procès et la distinction du coupable. » Sans remarquer l'absurdité de ces derniers mots, je me tournai vers M. Saturne. Il se tenait debout devant la porte, enveloppé d'un grand manteau noir, le chapeau à la main, l'air officiel. Le punch me troublait un peu la cervelle. Pour tout dire, j'avais des idées belliqueuses. Craignant d'avoir commis en l'invitant ce qui s'appelle, je crois, une gaffe en style de Paris, la figure de cet intrus, quel qu'il fût, me devenait insupportable et je contenais, à grand-peine, mon désir de le lui faire savoir. « Monsieur le baron, lui dis-je en souriant, d'après vos sous-entendus singuliers, nous serions presque en droit de vous demander si ce n'est pas un peu comme la loi que vous êtes sourd et aveugle aussi souvent que Dieu vous le permet. » Il s'approcha de moi, se pencha d'un air plaisant et me répondit à voix basse « Mais taisez-vous donc, il y a des dames !» Il salua circulairement et sortit, me laissant muet, un peu frémissant et ne pouvant en croire mes oreilles. Lecteur, un mot, ici. Lorsque Stendhal voulait écrire une histoire d'amour un peu sentimentale, il avait coutume, on le sait, de relire, d'abord, une demi-douzaine de pages du code pénal pour, disait-il, se donner le ton. Pour moi, m'étant mise en tête d'écrire certaines histoires, j'avais trouvé plus pratique, après mûre réflexion, de fréquenter, tout bonnement, le soir, l'un des cafés du passage de Choiseul, où feu M. X, l'ancien exécuteur des hautes œuvres de Paris, venait, presque quotidiennement, faire sa petite partie d'impérial incognito. C'était, me semblait-il, un homme aussi bien élevé que tel autre. Il parlait d'une voix fort basse, mais très distincte, avec un bénin sourire. Je m'asseyais à une table voisine, et il me divertissait quelque peu, lorsque, emporté par le démon du jeu, il s'écriait brusquement « Je coupe !» sans y entendre malice. Ce fut là, je m'en souviens, que j'écrivis mes plus poétiques inspirations pour me servir d'une expression bourgeoise. J'étais donc à l'épreuve de cette grosse sensation d'horreur convenue que causent aux passants ces messieurs de la robe courte. Il était donc étrange que je me sentisse, en ce moment, sous l'impression d'un saisissement aussi intense parce que notre convive de hasard venait de se déclarer l'un d'entre eux. C, qui, pendant les derniers mots, nous avait rejoints, me frappa légèrement sur l'épaule. « Perds-tu la tête ? » me demanda-t-il. « Il aura fait quelque gros héritage et n'exerce plus qu'en attendant un successeur, » murmurai-je, très énervé par les fumées du punch. « Bon, » dit C, « ne vas-tu pas supposer qu'il est, réellement, attaché à la cérémonie en question ?»« Tu as donc saisi le sens de notre petite causerie, mon cher ?» lui dis-je tout bas. « Courte, mais instructive. Ce monsieur est un simple exécuteur, belge probablement. C'est l'exotique dont parlait Anthony tout à l'heure. Sans sa présence d'esprit, j'eusse essuyé une déconvenue en ce qu'il eût effrayé ces jeunes personnes. « Allons donc, » s'écria C. « Un exécuteur en équipage de 30 000 francs, qui donne des diamants à sa voisine, qui soupe à la maison dorée la veille de prodiguer ses soins à un client. Depuis ton café de Choiseul, tu vois des bourreaux partout. Bois un verre de punch. Ton monsieur Saturne est un assez mauvais plaisant, tu sais. » À ces mots, il me sembla que la logique, oui, que la froide raison, était du côté de ce cher poète. Fort contrarié, je pris à la hâte mes gants et mon chapeau, et me dirigeai très vite sur le seuil, en murmurant « Bien. Tu as raison, » dit C. Ce lourd sarcasme a duré très longtemps, ajoutai-je en ouvrant la porte du salon. « Si j'atteins ce mystificateur funèbre, je jure que... »« Un instant. Jouons à qui passera le premier, » dit C. J'allais répondre le nécessaire et disparaître lorsque, derrière mon épaule, une voix allègre et bien connue s'écria sous la tenture soulevée « Inutile, restez, mon cher ami !» En effet, notre illustre ami, le petit docteur Florian Les Églisottes, était entré pendant nos dernières paroles. Il était devant moi, tout sautillant, dans son witchoura, couvert de neige. « Mon cher docteur, lui dis-je, dans l'instant, je suis à vous, mais... » Il me retint. « Lorsque je vous aurai conté l'histoire de l'homme qui sortait de ce salon quand je suis arrivé, » continua-t-il, « je parie que vous ne vous soucierez plus de lui demander compte de ses sailles. D'ailleurs, il est trop tard. Sa voiture l'a emporté loin d'ici déjà. » Il prononça ces mots sur un ton si étrange qu'il m'arrêta définitivement. « Voyons l'histoire, docteur, » dis-je en me rasseyant, après un moment. « Mais songez-y, les Églisottes. Vous répondez de mon inaction et la prenez sous votre bonnet. » Le prince de la science posa dans un coin sa canne à pomme d'or, effleura galamment, du bout des lèvres, les doigts de nos trois belles interdites, se versa un peu de madère et, au milieu du silence fantastique dû à l'incident et à son entrée personnelle, commença en ces termes. « Je comprends toute l'aventure de ce soir. Je me sens au fait de tout ce qui vient de se passer, comme si j'avais été des vôtres. Ce qui vous est arrivé, sans être précisément alarmant, est, néanmoins, une chose qui aurait pu le devenir. « Hein ?» dit C. « Ce monsieur est bien, en effet, le baron de H. Il est d'une haute famille d'Allemagne. Il est riche à millions. Mais Le docteur nous regarda. Mais le prodigieux cas d'aliénation mentale dont il est frappé, ayant été constaté par les facultés médicales de Munich et de Berlin, présente la plus extraordinaire et la plus incurable de toutes les monomanies enregistrées jusqu'à ce jour. » Acheva le docteur du même ton que s'il se fût trouvé à son cours de physiologie comparée. « Un fou ? Qu'est-ce à dire, Florian ? Que signifie cela ?» murmura C. en allant pousser le verrou léger de la serrure. Ces dames, elles-mêmes, avaient changé de sourire à cette révélation. Quant à moi, je croyais, positivement, rêver depuis quelques minutes. « Un fou ! » s'écria Anthony. « Mais on renferme ces personnes, il me semble !» Je croyais avoir fait observer que notre gentilhomme était plusieurs fois millionnaire, répliqua fort gravement les Eglisottes. C'est donc lui qui fait enfermer les autres, ne vous en déplaise. Et quel est son genre de manie? Demanda Susanna. Je le trouve très gentil, moi, ce monsieur, je vous en préviens. Vous ne serez peut-être pas de cet avis tout à l'heure, madame, continua le docteur en allumant une cigarette. Le petit jour livide tintait les vitres, les bougies jaunissaient, le feu s'éteignait. Ce que nous entendions nous donnait la sensation d'un cauchemar. Le docteur n'était pas de ceux auxquels la mystification est familière. Ce qu'il disait devait être aussi froidement réel que la machine dressée là-bas sur la place. « Il paraîtrait, continua-t-il, entre deux gorgées de madère, qu'aussitôt sa majorité, ce jeune homme taciturne s'embarqua pour les Indes orientales. Il voyagea beaucoup dans les contrées de l'Asie. Là commence le mystère épais qui cache l'origine de son accident. Il assista, pendant certaines révoltes, dans l'Extrême-Orient, à ces supplices rigoureux que les lois en vigueur dans ces parages infligent aux rebelles et aux coupables. Il y assista, d'abord, sans doute, par une simple curiosité de voyageur. Mais, à la vue de ces supplices, il paraîtrait que les instincts d'une cruauté qui dépasse les capacités de conception connues s'émurent en lui, troublèrent son cerveau, empoisonnèrent son sang et finalement le rendirent l'être singulier qu'il est devenu. Figurez-vous qu'à force d'or, le baron de H pénétra dans les vieilles prisons des villes principales de la Perse, de l'Indochine et du Tibet et qu'il obtint, plusieurs fois, des gouverneurs, d'exercer les horribles fonctions de justicier au lieu et place des exécuteurs orientaux. Vous connaissez l'épisode des 40 livres pesant d'yeux crevés qui furent apportés, sur deux plats d'or, au Shah Nasser Eddin, le jour où il fit son entrée solennelle dans une ville révoltée? Le baron, vêtu en homme du pays, fut l'un des plus ardents zélateurs de toute cette atrocité. L'exécution des deux chefs de la sédition fut d'une plus stricte horreur. Ils furent condamnés d'abord à se voir arracher toutes les dents par des tenailles, puis à l'enfoncement de ces mêmes dents dans leur crâne, rasés à cet effet, et ceci de manière à y former les initiales persanes du nom glorieux du successeur de Feth Ali Shah. Ce fut encore notre amateur qui, moyennant un sac de roupies, obtint de les exécuter lui-même et avec la gaucherie compassée qui le distingue. Simple question. Quel est le plus insensé de celui qui ordonne de tels supplices ou de celui qui les exécute? Vous êtes révolté? Bah, si le premier de ces deux hommes daignait venir à Paris, nous serions trop honorés de lui tirer des feux d'artifice et d'ordonner au drapeau de nos armées de s'incliner sur son passage. Le tout, fût-ce au nom des immortels principes de 89. Donc, passons. S'il faut en croire les rapports des capitaines Hobbs et Higginson, les raffinements que sa monomanie croissante lui suggéra, dans ces occasions, ont surpassé, de toute la hauteur de l'absurde, celle des Tibères et des Héliogabales, et toutes celles qui sont mentionnées dans les fastes humains. Car, ajouta le docteur, un fou ne saurait être égalé en perfection sur le point où il déraisonne. Le docteur Les Eglisottes s'arrêta et nous regarda, tour à tour, d'un air goguenard. À force d'attention, nous avions laissé nos cigares s'éteindre pendant ce discours. « Une fois de retour en Europe, continua le docteur, le baron de H, blasé jusqu'à faire espérer sa guérison, fut bientôt ressaisi par sa fièvre chaude. Il n'avait qu'un rêve, un seul, plus morbide, plus glacé que toutes les abjectes imaginations du marquis de Sade. C'était, tout bonnement, de se faire délivrer le brevet d'exécuteur des hautes œuvres générales de toutes les capitales de l'Europe. Il prétendait que les bonnes traditions et l'habileté périclitaient dans cette branche artistique de la civilisation, qu'il y avait, comme on dit, péril en la demeure, et, fort des services qu'il avait rendus en Orient, écrivait-il dans les placets qu'il a souvent envoyés, il espérait, si les souverains daignaient l'honorer de leur confiance, arracher aux prévaricateurs les hurlements les plus modulés que jamais oreille de magistrat ait entendus sous la voûte d'un cachot. Tenez, quand on parle de Louis XVI devant lui, son œil s'allume et reflète une haine d'outre-tombe extraordinaire. Louis XVI est, en effet, le souverain qui a cru devoir abolir la question préalable, et ce monarque est le seul homme que M. de H. ait probablement jamais haï. Il échoua toujours dans ses placets, comme bien vous le pensez, et c'est grâce aux démarches de ses héritiers qu'on ne l'a pas enfermé selon ses mérites. En effet, des clauses du testament de son père, feu le baron de H., forcent la famille à éviter sa mort civile à cause des énormes préjudices d'argent que cette mort entraînerait pour les proches de ce personnage. Il voyage donc en liberté. Il est au mieux avec tous ces messieurs de la justice capitale. Sa première visite est pour eux dans toutes les villes où il passe. Il leur a souvent offert des sommes très fortes pour le laisser opérer à leur place, et je crois, entre nous, ajouta le docteur en clignant de l'œil, qu'en Europe, il en a débauché quelques-uns. À part ses équipés, on peut dire que sa folie est inoffensive, puisqu'elle ne s'exerce que sur des personnes désignées par la loi. En dehors de son aliénation mentale, le baron de H. a la renommée d'un homme de mœurs paisible et, même, engageante. De temps à autre, sa mansuétude ambiguë donne, peut-être, froid dans le dos, comme on dit, à ceux de ses intimes qui sont au courant de sa terrible turlutaine, mais c'est tout. Néanmoins, il parle souvent de l'Orient avec quelques regrets et doit incessamment y retourner. La privation du diplôme de tortionnaire en chef du globe l'a plongé dans une mélancolie noire. Figurez-vous les rêveries de Torquemada ou d'Arbues, des ducs d'Albe ou d'York. Sa monomanie s'empire de jour en jour. Aussi, toutes les fois qu'il se présente une exécution, en est-il averti par des émissaires secrets, avant les gentilshommes de la hache eux-mêmes. Il court, il vole, il dévore la distance, sa place est réservée au pied de la machine. Il y est, en ce moment où je vous parle. Il ne dormirait pas tranquille s'il n'avait pas obtenu le dernier regard du condamné. Voilà, messieurs et mesdames, le gentleman avec lequel vous avez eu l'heur de frayer cette nuit. J'ajouterai que, sorti de sa démence et dans ses rapports avec la société, c'est un homme du monde vraiment irréprochable, et le causeur le plus entraînant, le plus enjoué, le plus... « Assez, docteur, par grâce !» s'écrièrent Antonie et Clio la cendrée, que le badinage strident et sardonique de Florian avait impressionné extraordinairement. « Mais c'est le Sigisbée de la guillotine !» murmura Susanna. « C'est le dilettante de la torture !» « Vraiment, si je ne vous connaissais pas, docteur !» balbutia C. « Vous ne croiriez pas ?» interrompit les églisotes. « Je ne l'ai pas cru, moi-même, pendant longtemps. Mais, si vous voulez, nous allons aller là-bas. J'ai justement ma carte. Nous pourrons parvenir jusqu'à lui, malgré la haie de cavalerie. Je ne vous demanderai que d'observer son visage, voilà tout, pendant l'accomplissement de la sentence. Après quoi, vous ne douterez plus. « Grand merci de l'invitation !» s'écria C. « Je préfère vous croire, malgré l'absurdité vraiment mystérieuse du fait. » « Ah, c'est un type que votre baron !» continua le docteur en attaquant un buisson d'écrevisse resté vierge miraculeusement. Puis, nous voyant tous devenus moroses, « Il ne faut pas vous étonner, ni vous affecter outre mesure de mes confidences à ce sujet, » dit-il. « Ce qui constitue la hideur de la chose, c'est la particularité de la monomanie. Quant au reste, un fol est un fol, rien de plus. Lisez les aliénistes, vous y relèverez des cas d'une étrangeté presque surprenante. Et ceux qui en sont atteints, je vous jure que nous les coudoyons en plein midi, à chaque instant, sans en rien soupçonner. Mes chers amis, conclut C, après un moment de saisissement général, je n'éprouverai pas, je l'avoue, d'éloignement bien précis à choquer mon verre contre celui que me tendrait un bras séculier, comme on disait au temps où les bras des exécuteurs pouvaient être religieux. Je n'en chercherai pas l'occasion, mais si elle s'offrait à moi, je vous dirai, sans trop déclamer, et les églisottes, surtout, me comprendra, que l'aspect ou même la compagnie de ceux qui exercent les fonctions capitales ne saurait m'impressionner en aucune façon. Je n'ai jamais très bien compris les effets des mélodrames à ce sujet. Mais la vue d'un homme tombé en démence parce qu'il ne peut remplir légalement cet office, ah, ceci, par exemple, me cause quelque impression, et je n'hésite pas à le déclarer. S'il est, parmi l'humanité, des âmes échappées d'un enfer, notre convive de ce soir est une des pires que l'on puisse rencontrer. Vous aurez beau l'appeler folle, cela n'explique pas sa nature originelle. Un bourreau réel me serait indifférent. Notre affreux maniaque me fait frissonner d'un frisson indéfinissable. » Le silence qui accueillit les paroles de C fut solennel, comme si la mort eût laissé voir, brusquement, sa tête chauve entre les candélabres. « Je me sens un peu indisposée, » dit Clio la cendrée, d'une voix que la surexcitation nerveuse et le froid de l'aurore intervenue entrecoupaient. « Ne me laissez point toute seule. Venez à la villa. Tâchons d'oublier cette aventure, messieurs et amis. Venez, il y a des bains, des chevaux et des chambres pour dormir. » Elle savait à peine ce qu'elle disait. « C'est au milieu du bois. Nous y serons dans 20 minutes. Comprenez-moi, je vous en prie. L'idée de ce monsieur me rend presque malade, et si j'étais seule, j'aurais quelque inquiétude de le voir entrer tout à coup, une lampe à la main, éclairant son fade sourire qui fait peur. » « Voilà, certes, une nuit énigmatique, » dit Susanna Jackson. Les églisottes s'essuyaient les lèvres d'un air satisfait, ayant terminé son buisson. Nous sonnâmes, Joseph parut. Pendant que nous en finissions avec lui, l'Écossaise, en se touchant les joues d'une petite houppe de cygne, murmura, tranquillement, auprès d'Anthony, « N'as-tu rien à dire à Joseph, petit Iseux ?»« Si fait, » répondit la jolie et toute pâle créature, « et tu m'as devinée, folle. » Puis, se tournant vers l'intendant, « Joseph, » continua-t-elle, « prenez cette bague. Le rubis en est un peu foncé pour moi. N'est-ce pas, Suzanne ? Tous ces brillants ont l'air de pleurer autour de cette goutte de sang. Vous la ferez vendre aujourd'hui et vous en remettrez le montant aux mendiants qui passent devant la maison. » Joseph prit la bague, s'inclina de ce salut somnambulique dont il eut seul le secret, et sortit pour faire avancer les voitures, pendant que ces dames achevaient de rajuster leurs toilettes, s'enveloppaient de leurs longs dominos de satin noir, et remettaient leurs masques. 6 heures sonnèrent. « Un instant, » dis-je en étendant le doigt vers la pendule, « voici une heure qui nous rend tous un peu complices de la folie de cet homme. Donc, ayons plus d'indulgence pour elle. Ne sommes-nous pas, en ce moment même, implicitement, d'une barbarie à peu près aussi morne que la sienne ?» À ces mots, l'on resta debout, en grand silence. Susanna me regarda sous son masque. J'eus la sensation d'une lueur d'acier. Elle détourna la tête et entr'ouvrit une fenêtre, très vite. L'heure sonnait, au loin, à tous les clochers de Paris. Au 6e coup, tout le monde tressaillit profondément, et je regardais, pensif, la tête d'un démon de cuivre, aux traits crispés, qui soutenait, dans une patère, les flots sanglants des rideaux rouges. Fin du convive des dernières fêtes.
Assis méprendre, des contes cruels. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet. Conte cruel par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. À s'y méprendre. À Monsieur Henri de Bornier. D'ardent on ne sait où leur globe ténébreux. C'est Baudelaire. Par une grise matinée de novembre, je descendais les quais d'un pas hâtif. Une bruine froide mouillait l'atmosphère. Des passants noirs, aubombrés de parapluies difformes, s'entrecroisaient. La Seine jaunie charriait ses bateaux marchands pareils à des hannetons démesurés. Sur les ponts, le vent cinglait brusquement les chapeaux, que leur possesseur disputait à l'espace avec ses attitudes et ses contorsions, dont le spectacle est toujours si pénible pour l'artiste. Mes idées étaient pâles et brumeuses. La préoccupation d'un rendez-vous d'affaires, accepté depuis la veille, me harcelait l'imagination. L'heure me pressait. Je résolus de m'abriter sous l'auvent d'un portail, d'où il me serait plus commode de faire signe à quelque fiacre. À l'instant même, j'aperçus, tout justement à côté de moi, l'entrée d'un bâtiment carré, d'aspect bourgeois. Il s'était dressé dans la brume comme une apparition de pierre, et, malgré la rigidité de son architecture, malgré la buée morne et fantastique dont il était enveloppé, je lui reconnus, tout de suite, un certain air d'hospitalité cordiale qui me rasséréna l'esprit. « À coup sûr, me dis-je, les hôtes de cette demeure sont des gens sédentaires. Ce seuil invite à s'y arrêter. La porte n'est-elle pas ouverte ?» Donc, le plus poliment du monde, l'air satisfait, le chapeau à la main, méditant même un madrigal pour la maîtresse de la maison, j'entrai, souriant, et me trouvai de plein pied devant une espèce de salle à toiture vitrée, d'où le jour tombait, livide. À des colonnes étaient appendus des vêtements, des cache-nez, des chapeaux. Des tables de marbre étaient disposées de toutes parts. Plusieurs individus, les jambes allongées, la tête élevée, les yeux fixes, l'air positif, paraissaient méditer. Et les regards étaient sans pensée, les visages couleur du temps. Il y avait des portefeuilles ouverts, des papiers dépliés auprès de chacun d'eux. Et je reconnus, alors, que la maîtresse du logis, sur l'accueillante courtoisie de laquelle j'avais compté, n'était autre que la mort. Je considérais mes hôtes. Certes, pour échapper aux soucis de l'existence tracassière, la plupart de ceux qui occupaient la salle avaient assassiné leur corps, espérant, ainsi, un peu plus de bien-être. Comme j'écoutais le bruit des robinets de cuivre scellés à la muraille et destinés à l'arrosage quotidien de ces restes mortels, j'entendis le roulement d'un fiacre. Il s'arrêtait devant l'établissement. Je fis la réflexion que mes gens d'affaires attendaient. Je me retournai pour profiter de la bonne fortune. Le fiacre venait, en effet, de dégorger, au seuil de l'édifice, des collégiens en goguette qui avaient besoin de voir la mort pour y croire. J'avisai la voiture déserte et je dis au cocher « Passage de l'Opéra !» Quelque temps après, au boulevard, le temps me sembla plus couvert, faute d'horizon. Les arbustes, végétation squelette, avaient l'air, du bout de leurs branchettes noires, d'indiquer vaguement les piétons aux gens de police ensommeillés encore. La voiture se hâtait. Les passants, à travers la vitre, me donnaient l'idée de l'eau qui coule. Une fois à destination, je sautai sur le trottoir et m'engageai dans le passage encombré de figures soucieuses. À son extrémité, j'aperçus, tout justement vis-à-vis de moi, l'entrée d'un café, aujourd'hui consumé dans un incendie célèbre, car la vie est un songe, et qui était relégué au fond d'une sorte de hangar, sous une voûte carrée, d'aspect morne. Les gouttes de pluie qui tombaient sur le vitrage supérieur obscurcissaient encore la pâle lueur du soleil. C'était là que m'attendait, pensais-je, la coupe en main, l'œil brillant et narguant le destin, mes hommes d'affaires. Je tournai donc le bouton de la porte et me trouvai, de plein pied, dans une salle où le jour tombait d'en haut, par le vitrage, livide. À des colonnes étaient appendus des vêtements, des cache-nez, des chapeaux. Des tables de marbre étaient disposées de toutes parts. Plusieurs individus, les jambes allongées, la tête levée, les yeux fixes, l'air positif, paraissaient méditer. Et les visages étaient couleur du temps, les regards sans pensée. il y avait des portefeuilles ouverts et des papiers dépliés auprès de chacun d'eux. Je considérais ces hommes. Certes, pour échapper aux obsessions de l'insupportable conscience, la plupart de ceux qui occupaient la salle avaient, depuis longtemps, assassiné leurs âmes, espérant, ainsi, un peu plus de bien-être. Comme j'écoutais le bruit des robinets de cuivre, scellés à la muraille et destinés à l'arrosage quotidien de ces restes mortels, le souvenir du roulement de la voiture me revint à l'esprit. À coup sûr, me dis-je, il faut que ce cocher ait été frappé, à la longue, d'une sorte d'hébétude, pour m'avoir ramené, après tant de circonvolutions, simplement à notre point de départ. Toutefois, je l'avoue, s'il y a méprise, le second coup d'œil est plus sinistre que le premier. Je refermai donc, en silence, la porte vitrée, et je revins chez moi, bien décidé, au mépris de l'exemple, et quoi qu'il pût m'advenir, à ne jamais faire d'affaires. Fin de « À s'y méprendre », enregistré par Nadine Eckert-Boulet.
Impatience de la foule, des contes cruels. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Lérisanne. Conte cruel par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. Impatience de la foule. À Monsieur Victor Hugo. Passant, va dire à Lacédémone que nous sommes ici, morts, pour obéir à ses saintes lois. Simonides. La grande porte de Sparte, au battant ramené contre la muraille comme un bouclier d'airain appuyé à la poitrine d'un guerrier, s'ouvrait devant le Taygète. La poudreuse pente du mont rougeoyait des feux froids d'un couchant au premier jour de l'hiver, et l'aride versant renvoyait au rempart de la ville d'Héraclès l'image d'une hécatombe sacrifiée au fond d'un soir cruel. Au-dessus du portail civique, le mur se dressait lourdement. Au sommet terrassé, se tenait une multitude toute rouge du soir. Les lueurs de fer des armures, les péplos, les chars, les pointes des piques étincelaient du sang de l'astre. Seuls les yeux de cette foule étaient sombres. Ils envoyaient fixement des regards aigus, comme des javelots, vers la cime du mont, d'où quelque grande nouvelle était attendue. La surveille, les 300 étaient partis avec le roi. Couronnés de fleurs, ils s'en étaient allés au festin de la patrie. Ceux qui devaient souper dans les enfers avaient peigné leurs chevelures pour la dernière fois dans le temple de Lycurgue. Puis, levant leurs boucliers et les frappant de leurs épées, les jeunes hommes, aux applaudissements des femmes, avaient disparu dans l'aurore en chantant des vers de Tyrté. Maintenant, sans doute, les hautes herbes du défilé frôlaient leurs jambes nues, comme si la terre qu'ils allaient défendre voulait caresser encore ses enfants avant de les reprendre en son sein vénérable. Le matin, des chocs d'armes, apportés par le vent, et des vociférations triomphales avaient confirmé les rapports des bergers éperdus. Les Perses avaient reculé deux fois, dans une immense défaite, laissant les 10 000 immortels sans sépulcre. La Locride avait vu ses victoires. La Thessalie se soulevait. Thèbes, elle-même, s'était réveillée devant l'exemple. Athènes avait envoyé ses légions et s'armait sous les ordres de Miltiade. 7 000 soldats renforçaient la phalange laconienne. Mais voici qu'au milieu des chants de gloire et des prières dans le temple de Diane, les 5 éphores, ayant écouté des messagers survenus, s'étaient entre-regardés. Le Sénat avait donné sur le champ des ordres pour la défense de la ville. De là ces retranchements creusés en hâte, car Sparte, par orgueil, ne se fortifiait à l'ordinaire que de ses citoyens. Une ombre avait dissipé toutes les joies. On ne croyait plus au discours des pasteurs. Les sublimes nouvelles furent oubliées d'un seul coup, comme des fables. Les prêtres avaient frissonné gravement. Des bras d'augure, éclairés par la flamme des trépieds, s'étaient levés, vouant aux divinités infernales. Des paroles brèves avaient été chuchotées, terribles, aussitôt. et l'on avait fait sortir les vierges, car on allait prononcer le nom d'un traître. Et leurs longs vêtements avaient passé sur les ilotes, couchés, ivres de vin noir, en travers des degrés des portiques, lorsqu'elles avaient marché sur eux sans les apercevoir. Alors retentit la nouvelle désespérée. Un passage désert dans la Phocide avait été découvert aux ennemis. Un pâtre messénien avait vendu la terre d'Hellas. Éphialtès avait livré à Xerxès la mère patrie, et les cavaleries perses, au front desquelles resplendissaient les armures d'or des satrapes, envahissaient déjà le sol des dieux, foulaient aux pieds la nourrice des héros. Adieu, temple, demeure des aïeux, plaine sacrée. Ils allaient venir avec des chaînes, eux, les efféminés et les pâles, et se choisir des esclaves parmi tes filles, Lacédémone. La consternation s'accrut de l'aspect de la montagne lorsque les citoyens se furent rendus sur la muraille. Le vent se plaignait dans les rocheuses ravines, entre les sapins qui se ployaient et craquaient, confondant leurs branches nues, pareilles aux cheveux d'une tête renversée avec horreur. La gorgone courait dans les nuées, dont les voiles semblaient mouler sa face, et la foule, couleur d'incendie, s'entassait dans les embrasures en admirant l'âpre désolation de la terre sous la menace du ciel. Cependant cette multitude aux bouches sévères se condamnait au silence à cause des vierges. Il ne fallait pas agiter leurs seins, ni troubler leur sang d'impressions accusatrices envers un homme d'Hellas. On songeait aux enfants futurs. L'impatience, l'attente déçue, l'incertitude du désastre alourdissaient l'angoisse. Chacun cherchait à s'aggraver encore l'avenir, et la proximité de la destruction semblait imminente. Certes, les premiers fronts d'armée allaient apparaître dans le crépuscule. Quelques-uns se figuraient voir dans les cieux et coupant l'horizon le reflet des cavaleries de Xerxès, son char même. Les prêtres, tendant l'oreille, discernaient des clameurs venues du nord, disaient-ils, malgré le vent des mers méridionales qui faisait bruire leurs manteaux. Les balises roulaient, prenant position. On bandait ses scorpions et les monceaux de dards tombaient auprès des roues. Les jeunes filles disposaient des brasiers pour faire bouillir la poix. Les vétérans, revêtus de leurs armures, supputaient, les bras croisés, le nombre d'ennemis qu'ils abattraient avant de tomber. On allait murer les portes, car Sparte ne se rendrait pas, même en portée d'assaut. On calculait les vivres, on prescrivait aux femmes le suicide. On consultait des entrailles abandonnées qui fumaient çà et là. Comme on devait passer la nuit sur la muraille en cas de surprise des Perses, le nommé Nogaclès, le cuisinier des gardiens, sorte de magistrat, préparait sur le rempart même la nourriture publique. Debout contre une vaste cuve, il agitait son lourd pilon de pierre et tout en écrasant distraitement le grain dans le lait salé, il regardait lui aussi, d'un air soucieux, la montagne. On attendait. Déjà d'infâmes suggestions s'élevaient au sujet des combattants. Le désespoir de la foule est calomnieux, et les frères de ceux-là qui devaient bannir Aristide, Thémistocle et Miltiade n'enduraient pas sans fureur leur inquiétude. Mais de très vieilles femmes alors secouaient la tête en tressant leurs grandes chevelures blanches. Elles étaient sûres de leurs enfants et gardaient la farouche tranquillité des louves qui ont sevré. Une obscurité brusque envahit le ciel. Ce n'étaient pas les ombres de la nuit. Un vol immense de corbeaux apparut, surgit des profondeurs du sud. Cela passa sur Sparte avec des cris de joie terribles et couvrait l'espace, assombrissait la lumière. Ils allèrent se percher sur toutes les branches des bois sacrés qui entouraient le Taygète. Ils demeurèrent là, vigilants, immobiles, le bec tourné vers le nord et les yeux allumés. Une clameur de malédiction s'éleva, tonnante, et les poursuivit. Les catapultes ronflèrent en voyant des volées de cailloux dont les chocs sonnèrent après mille sifflements et crépitèrent en pénétrant les arbres. Les poings tendus, les bras levés au ciel, on voulut les effrayer. Ils demeurèrent impassibles, comme si une odeur divine de héros étendus les eût fascinés, et ils ne quittèrent point les branches noires ployantes sous leurs fardeaux. Les mères frémirent en silence devant cette apparition. Maintenant les vierges s'inquiétaient. On leur avait distribué les lames saintes, suspendues depuis des siècles dans les temples. « Pour qui ces épées ? » demandait-elle. et leurs regards doux encore allaient du miroitement des glais venus aux yeux plus froids de ceux qui les avaient engendrés. On leur souriait par respect, on les laissait dans l'incertitude des victimes, on leur apprendrait au dernier instant que ces épées étaient pour elles. Tout à coup les enfants poussèrent un cri. Leurs yeux avaient distingué quelque chose au loin. Là-bas, à la cime déjà bleuie du mont désert, un homme, emporté par le vent d'une fuite antérieure, descendait vers la ville. Tous les regards se fixèrent sur cet homme. Il venait, tête baissée, le bras étendu sur une sorte de bâton rameux, coupé au hasard de la détresse sans doute, et qui soutenait sa course vers la porte spartiate. Déjà, comme il touchait à la zone où le soleil jetait ses derniers rayons sur le centre de la montagne, on distinguait son grand manteau enroulé autour de son corps. L'homme était tombé en route, car son manteau était tout souillé de fange, ainsi que son bâton. Ce ne pouvait être un soldat, il n'avait pas de bouclier. Un morne silence accueillit cette vision. De quel lieu d'horreur s'enfuyait-il ainsi? Mauvais présage. Cette course n'était pas digne d'un homme. Que voulait-il? Un abri? On le poursuivait donc? L'ennemi sans doute. Déjà? Déjà? Au moment où l'oblique lumière de l'astre mourant l'atteignit des pieds à la tête, on aperçut les Cnémides. Un vent de fureur et de honte bouleversa les pensées. On oublia la présence des vierges qui devinrent sinistres et plus blanches que de véritables lys. Un nom, vomi par l'épouvante et la stupeur générale, retentit. C'était un Spartiate, un des 300. On le reconnaissait. Lui, c'était lui. Un soldat de la ville avait jeté son bouclier. On fuyait. Et les autres? Avaient-ils lâché pied, eux aussi, les intrépides? Et l'anxiété crispait les faces. La vue de cet homme équivalait à la vue de la défaite. Ah, pourquoi se voiler plus longtemps le vaste malheur? Ils avaient fui, tous. Ils le suivaient. Ils allaient apparaître d'un instant à l'autre, poursuivis par les cavaliers perses. Et mettant la main sur ses yeux, le cuisinier s'écria qu'il les apercevait dans la brume. Un cri domina toutes les rumeurs. Il venait d'être poussé par un vieillard et une grande femme. Tous deux, cachant leurs visages interdits, avaient prononcé ces paroles horribles. « Mon fils !» Alors un ouragan de clameurs s'éleva. Les poings se tendirent vers le fuyard. « Tu te trompes, ce n'est pas ici le champ de bataille. « Ne cours pas si vite, ménage-toi. Les Perses achètent-ils bien les boucliers et les épées? Et Phialtès est riche. Prends garde à ta droite, les eaux de Pélops, d'Héraclès et de Pollux sont sous tes pieds. Imprécation, tu vas réveiller les mânes de l'aïeul, mais il sera fier de toi. Mercure t'a prêté les ailes de ses talons. Par le Styx, tu gagneras le prix aux Olympiades. » Le soldat semblait ne pas entendre et courait toujours vers la ville. Et comme il ne répondait ni ne s'arrêtait, cela exaspéra. Les injures devinrent effroyables. Les jeunes filles regardaient avec stupeur. Et les prêtres? Lâche, tu es souillé de boue. Tu n'as pas embrassé la terre natale, tu l'as mordue. Il vient vers la porte. Ah, par les dieux infernaux, tu n'entreras pas. Des milliers de bras s'élevèrent. Arrière, c'est le barâtre qui t'attend. Ou plutôt... Arrière, nous ne voulons pas de ton sang dans nos gouffres. Au combat, retourne. Crains les ombres des héros autour de toi. Les Perses te donneront des couronnes et des lyres. Va distraire leur festin, esclave. À cette parole, on vit les jeunes filles de la Cédémone incliner le front sur leur poitrine et serrant dans leurs bras les épées portées par les rois libres dans les âges reculés, elles versèrent des larmes en silence. Elles enrichissaient de ces pleurs héroïques la rude poignée des glaives. Elles comprenaient et se vouaient à la mort pour la patrie. Soudain, l'une d'entre elles s'approcha, svelte et pâle, du rempart. On s'écarta pour lui livrer passage. C'était celle qui devait être un jour l'épouse du fuyard. « Ne regarde pas, Séméis !» lui crièrent ses compagnes. Mais elle considéra cet homme, et ramassant une pierre, elle la lança contre lui. La pierre atteignit le malheureux. Il leva les yeux et s'arrêta. Et alors un frémissement parut l'agiter. Sa tête, un moment relevée, retomba sur sa poitrine. Il parut songer. À quoi donc? Les enfants le contemplaient, les mères leur parlaient bas en l'indiquant. L'énorme et belliqueux cuisinier interrompit son labeur et quitta son pilon. Une sorte de colère sacrée lui fit oublier ses devoirs. Il s'éloigna de la cuve et vint se pencher sur une embrasure de la muraille. Puis, rassemblant toutes ses forces et gonflant ses joues, le vétéran cracha vers le transfuge. Et le vent qui passait emporta, complice de cette saine indignation, l'infâme écume sur le front du misérable. Une acclamation retentit, approbatrice de cette énergique marque de courroux. On était vengé. Pensif, appuyé sur son bâton, le soldat regardait fixement l'entrée ouverte de la ville. Sur le signe d'un chef, la lourde porte roula entre lui et l'intérieur des murailles et vint s'enchâsser entre les deux montants de granit. Alors, devant cette porte fermée qui le proscrivait pour toujours, le fuyard tomba en arrière, tout droit, étendu sur la montagne. À l'instant même, avec le crépuscule et le pâlissement du soleil, les corbeaux, eux, se précipitèrent sur cet homme. Ils furent applaudis cette fois, et leur voile meurtrier le déroba subitement aux outrages de la foule humaine. Puis vint la rosée du soir qui détrempa la poussière autour de lui. À l'aube, il ne resta de l'homme que des eaux dispersées. Ainsi mourut l'âme éperdue de cette seule gloire que jalousent les dieux, et fermant pieusement les paupières pour que l'aspect de la réalité ne troublât d'aucune vaine tristesse la conception sublime qu'il gardait de la patrie, ainsi mourut, sans parole, serrant dans sa main la palme funèbre et triomphale, et à peine isolée de la boue natale par la pourpre de son sang, l'auguste guerrier, élu messager de la victoire par les 300 pour ses mortelles blessures, alors que, jetant au torrent des Thermopyles son bouclier et son épée, ils le poussèrent vers Sparte, hors du défilé, le persuadant que ses dernières forces devaient être utilisées en vue du salut de la République. Ainsi disparut dans la mort, acclamé ou non de ceux pour lesquels il périssait, l'envoyé de Léonidas. Fin de Impatience de la foule.
Le secret de l'ancienne musique, des contes cruels. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet. Contes cruels par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. Le secret de l'ancienne musique. À Monsieur Richard Wagner. C'était jour d'audition à l'Académie nationale de musique. La mise à l'étude d'un ouvrage dû à certains compositeurs allemands, dont le nom, désormais oublié, nous échappe, heureusement, venait d'être décidée en haut lieu. Et ce maître étranger, s'il fallait ajouter créance à divers mémorandas publiés par la Revue des Deux Mondes, n'était rien moins que le fauteur d'une musique nouvelle. Les exécutants de l'opéra ne se trouvaient donc rassemblés aujourd'hui que dans le but de tirer, comme on dit, la chose au clair, en déchiffrant la partition du présomptueux novateur. La minute était grave. Le directeur apparut sur le théâtre et vint remettre au chef d'orchestre la volumineuse partition en litige. Celui-ci l'ouvrit, y jeta les yeux, tressaillit et déclara que l'ouvrage lui paraissait inexécutable à l'Académie de musique de Paris. « Expliquez-vous, » dit le directeur. « Messieurs, » reprit le chef d'orchestre, la France ne saurait prendre sur elle de tronquer, par une exécution défectueuse, la pensée d'un compositeur, à quelque nation qu'il appartienne. Or, dans les parties d'orchestre spécifiées par l'auteur, figure un instrument militaire aujourd'hui tombé en désuétude et qui n'a plus de représentant parmi nous. Cet instrument, qui fit les délices de nos pères, avait nom jadis le chapeau chinois. Je conclus que la disparition radicale du chapeau chinois en France nous oblige à décliner, quoique à regret, l'honneur de cette interprétation. Ce discours avait plongé l'auditoire dans cet état que les physiologistes appellent l'état comateux. Le chapeau chinois? Les plus anciens se souvenaient à peine de l'avoir entendu dans leur enfance. Mais il leur eût été difficile, aujourd'hui, de préciser même sa forme. Tout à coup, une voix articula ces paroles inespérées. « Permettez, je crois que j'en connais un. » Toutes les têtes se retournèrent. Le chef d'orchestre se dressa d'un bond. « Qui a parlé ?»« Moi, les cymbales, » répondit la voix. L'instant d'après, les cymbales étaient sur la scène, entourées, adulées et pressées de vives interrogations. « Oui, continuait-elle, je connais un vieux professeur de chapeau chinois, passé maître en son art, et je sais qu'il existe encore. » Ce ne fut qu'un cri. Les cymbales apparurent comme un sauveur. Le chef d'orchestre embrassa son jeune séide, car les cymbales étaient jeunes encore. Les trombones attendris l'encourageaient de leur sourire. Une contrebasse lui détacha un coup d'œil envieux. La caisse se frottait les mains. « Il ira loin » grommelait-elle. Bref, en cet instant rapide, les cymbales connurent la gloire. Séance tenante, une députation, qu'elles précédèrent, sortit de l'opéra, se dirigeant vers les Batignolles, dans les profondeurs desquelles devait s'être retirée, loin du bruit, l'austère virtuose. On arriva. S'enquérir du vieillard, gravir ses 9 étages, se suspendre à la patte pelée de sa sonnette et attendre, en soufflant, sur le palier, fut pour nos ambassadeurs l'affaire d'une seconde. Soudain, tous se découvrirent. Un homme d'aspect vénérable, au visage entouré de cheveux argentés qui tombaient en longues boucles sur ses épaules, une tête à la Béranger, un personnage de romance, se tenait debout sur le seuil et paraissait convier les visiteurs à pénétrer dans son sanctuaire. C'était lui. L'on entra. La croisée, encadrée de plantes grimpantes, était ouverte sur le ciel, en ce moment empourprée des merveilles du couchant. Les sièges étaient rares. La couchette du professeur remplaça, pour les délégués de l'opéra, ses ottomanes, ses poufs, qui, chez les musiciens modernes, abondent, hélas, trop souvent. Dans les angles s'ébauchaient de vieux chapeaux chinois. Ça et là gisaient plusieurs albums dont les titres commandaient l'attention. C'était d'abord « Un premier amour », « Mélodie pour chapeau chinois seul », suivi de variations brillantes sur le choral de Luther, « Concerto pour 3 chapeaux chinois », puis « Septuor de chapeau chinois », grand unisson, intitulé « Le calme ». Puis une œuvre de jeunesse, un peu entachée de romantisme, « Danse nocturne de jeunes mauresques dans la campagne de Grenade, au plus fort de l'Inquisition, grand boléro pour chapeau chinois ». Enfin, l'œuvre capitale du maître, « Le soir d'un beau jour, ouverture pour 150 chapeaux chinois ». Les cymbales, très émus, prirent la parole au nom de l'Académie nationale de musique. « Ah ! » dit avec amertume le vieux maître, « on se souvient de moi maintenant ? Je devrais... mon pays avant tout. Messieurs, j'irai. » Le trombone ayant insinué que la partie à jouer paraissait difficile, « Il n'importe, » dit le professeur en les tranquillisant d'un sourire. Et, leur tendant ses mains pâles, rompues aux difficultés d'un instrument ingrat, « À demain, messieurs, 8 heures, à l'opéra. » Le lendemain, dans les couloirs, dans les galeries, dans le trou du souffleur inquiet, ce fut un émoi terrible. La nouvelle s'était répandue. Tous les musiciens, assis devant leur pupitre, attendaient, larmes au poing. La partition de la musique nouvelle n'était plus, maintenant, que d'un intérêt secondaire. Tout à coup, la porte basse donna passage à l'homme d'autrefois. 8 heures sonnaient. À l'aspect de ce représentant de l'ancienne musique, tous se levèrent, lui rendant hommage comme une sorte de postérité. Le patriarche portait sous son bras, couché dans un humble fourreau de serge, l'instrument des temps passés, qui prenait de la sorte les proportions d'un symbole. Traversant les intervalles des pupitres et trouvant sans hésiter son chemin, il alla s'asseoir sur sa chaise de jadis, à la gauche de la caisse. Ayant assuré un bonnet de lustrine noire sur sa tête et un abat-jour vert sur ses yeux, il démaillota le chapeau chinois, et l'ouverture commença. Mais, aux premières mesures et dès le premier coup d'œil jeté sur sa partie, la sérénité du vieux virtuose parut s'assombrir. Une sueur d'angoisse perla bientôt sur son front. Il se pencha, comme pour mieux lire, et, les sourcils contractés, les yeux rivés au manuscrit qu'il feuilleta fiévreusement, à peine respirait-il. Ce que lisait le vieillard était donc bien extraordinaire pour qu'il se troublât de la sorte? En effet, le maître allemand, par une jalousie tudesque, s'était complu, avec une âpreté germaine, une malignité rancunière, à hérisser la partie du chapeau chinois de difficultés presque insurmontables. Elle s'y succédait pressée, ingénieuse, soudaine. C'était un défi. Qu'on juge, cette partie ne se composait exclusivement que de silence. Or, même pour les personnes qui ne sont pas du métier, qu'y a-t-il de plus difficile à exécuter que le silence pour le chapeau chinois? Et c'était un crescendo de silence que devait exécuter le vieil artiste. Il se roidit à cette vue. Un mouvement fiévreux lui échappa. Mais rien dans son instrument ne trahit les sentiments qui l'agitaient. Pas une clochette ne remua, pas un grelot, pas un fifrelin ne bougea. On sentait qu'il le possédait à fond. C'était bien un maître, lui aussi. Il joua, sans broncher, avec une maîtrise, une sûreté, un brio qui frappèrent d'admiration tout l'orchestre. Son exécution, toujours sobre mais pleine de nuances, était d'un style si châtié, d'un rendu si pur, que, chose étrange, il semblait par moments qu'on l'entendait. Les bravos allaient éclater de toutes parts quand une fureur inspirée s'alluma dans l'âme classique du vieux virtuose. Les yeux pleins d'éclairs et agitant avec fracas son instrument vengeur qui sembla comme un démon suspendu sur l'orchestre, « Messieurs !» vociféra le digne professeur. « J'y renonce, je n'y comprends rien. On n'écrit pas une ouverture pour un solo. Je ne puis pas jouer, c'est trop difficile. Je proteste, au nom de Monsieur Clapisson. Il n'y a pas de mélodie là-dedans, c'est du charivari. L'art est perdu, nous tombons dans le vide. » Et, foudroyé par son propre transport, il trébucha. Dans sa chute, il creva la grosse caisse et y disparut comme s'évanouit une vision. Hélas, il emportait, en s'engouffrant ainsi dans les flancs profonds du monstre, le secret des charmes de l'ancienne musique. Fin du secret de l'ancienne musique, enregistré par Nadine Eckert-Boulet.
Sentimentalisme des contes cruels. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadia. Conte cruel par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. Sentimentalisme. À Monsieur Jean Marin. Je m'estime peu quand je m'examine, beaucoup quand je me compare. Monsieur tout le monde. Par un soir de printemps, deux jeunes gens bien élevés, Lucien Emery et le comte Maximilien de W, étaient assis sous les grands arbres d'une avenue des Champs-Élysées. Lucien et cette belle jeune femme, à jamais parée de toilette noire, dont le visage est d'une pâleur de marbre et dont l'histoire est inconnue. Maximilien, dont nous avons appris la fin tragique, était un poète d'un talent merveilleux. De plus, il était bien fait et de manière accomplie. Ses yeux reflétaient la lumière intellectuelle, charmant, mais comme des pierreries, un peu froid. Leur intimité datait de 6 mois à peine. Ce soir-là, donc, ils regardaient en silence les vagues silhouettes des voitures, des ombres et des promeneurs. Tout à coup, Madame Emery prit doucement la main de son amant. « Ne vous semble-t-il pas, mon ami, lui dit-elle, que sans cesse agitée d'impressions artificielles et pour ainsi dire abstraites, les grands artistes comme vous finissent par émousser en eux la faculté de subir réellement les tourments ou les voluptés qui leur sont dévolues par le sort. Tout au moins traduisez-vous avec une gêne qui vous ferait passer pour insensible les sentiments personnels que la vie vous met en demeure d'éprouver. Il semblerait alors avoir la froide mesure de vos mouvements, que vous ne palpitez que par courtoisie. L'art sans doute vous poursuit d'une préoccupation constante jusque dans l'amour et dans la douleur. À force d'analyser les complexités de ces mêmes sentiments, vous craignez trop de ne pas être parfait dans vos manifestations, n'est-ce pas? De manquer d'exactitude dans l'exposé de votre trouble? Vous ne sauriez vous défaire de cette arrière-pensée? Elle paralyse chez vous les meilleurs élans et tempère toute expansion naturelle. On dirait que, prince d'un autre univers, une foule invisible ne cesse de vous environner, prête à la critique ou à l'ovation. Bref, lorsqu'un grand bonheur ou un grand malheur vous arrive, ce qui s'éveille en vous tout d'abord avant même que votre esprit s'en soit bien rendu compte, c'est l'obscur désir d'aller trouver quelques comédiens hors ligne pour lui demander quels sont les gestes convenables où vous devez vous laisser emporter par la circonstance. L'art conduirait-il à l'endurcissement? Cela m'inquiète. Lucienne, répondit le comte, j'ai connu certains chanteurs qui, auprès du lit de mort de sa fiancée, et entendant la sœur de celle-ci se répandre en sanglots convulsifs, ne pouvait s'empêcher de remarquer, malgré son affliction, les défauts d'émission vocale qui avaient lieu de signaler dans ses sanglots et son jet, vaguement aux exercices propres à leur donner plus de corps. Ceci vous semble mal. Cependant, notre chanteur mourut de cette séparation et la survivante quitta le deuil juste au jour prescrit par l'usage. Madame Emery regarda Maximilien. « À vous entendre, » dit-elle, « il serait difficile de préciser en quoi consiste la sensibilité véritable et à quels signes on peut la reconnaître. Je veux bien dissiper vos doutes à ce sujet, » répondit en souriant Monsieur de W. « Mais les termes techniques sont déplaisants et je crains... Laissez donc. J'ai mon bouquet de violettes de Parme, vous avez votre cigare, je vous écoute. » « Eh bien, soit, j'obéis, » répliqua Maximilien. Les fibres cérébrales affectées par les sensations de joie ou de peine paraissent, dites-vous, comme détenues chez l'artiste par ces excès d'émotions intellectuelles que nécessite chaque jour le culte de l'art. Moi, je ne les crois que sublimées, au contraire, ces mystérieuses fibres. Les autres hommes semblent gratifiés de propriétés de tendresse mieux conditionnées, de passions plus franches, plus sérieuses, enfin. Je vous affirme, moi, que la tranquillité de leurs organismes, encore un peu obscurcie par l'instinct, les porte à nous donner, pour de suprêmes expressions, de sentiments de simple débordement d'animalité. Je maintiens que leur cœur et leur cerveau sont desservis par des centres nerveux qui, ensevelis dans une torpeur habituelle, résonnent en vibrations infiniment moins nombreuses et plus sourdes que les nôtres. On dirait qu'ils ne se hâtent d'évaporer en clameur leurs impressions que pour se donner une illusion d'eux-mêmes ou se justifier d'avance de l'inertie où ils sentent bien qu'ils vont rentrer. Ces natures sans écho sont ce que le monde appelle des gens à caractère, des êtres, des cœurs violents et nuls, cessant d'être dupes de la matité de leurs cris, étaler sa faiblesse dans le secret espoir d'en communiquer la contagion afin de bénéficier au moins fictivement à ses propres yeux de l'émotion réelle que l'on parvient ainsi à susciter chez quelques autres grâce à cette obscure feintise. Cela ne convient qu'aux êtres inachevés. Au nom de quel droit réel prétendrait-il décréter que toutes ces agitations de plus que douteux aloi sont de rigueur dans l'expression des souffrances ou des ivresses de la vie et taxé d'insensibilité ceux dont la pudeur s'en abstient. Le rayon qui frappe un diamant entouré de gangs y est-il mieux reflété qu'en un diamant bien taillé ou pénètre l'essence même du feu? En vérité, cela, celle-là, qui se laisse émouvoir par la crudité des expansions sont de nature à préférer les bruits confus aux profondes mélodies. Voilà tout. « Pardon, Maximilien, » interrompit Madame Emery. « J'écoute votre analyse un peu subtile avec une admiration sincère, mais seriez-vous assez aimable pour me dire quelle est cette heure qui sonne ?»« 10 heures, Lucienne, » répondit le jeune homme en regardant sa montre à la lueur de son cigare. « Ah, bien, continuez. » « Pourquoi cette inquiétude rare à propos d'une heure qui passe ?»« Parce que c'est la dernière de notre amour, mon ami. » répondit Lucienne. J'ai accepté de Monsieur de Rostange un rendez-vous pour 11h30 ce soir. J'ai différé de vous l'apprendre jusqu'au dernier moment. M'en voulez-vous? Pardonnez-moi. Si le comte, à ces paroles, devint un peu plus pâle, l'obscurité protectrice, voilà cette marque d'émotion. Nul frémissement ne décela ce que dut subir son être en cet instant. Ah, dit-il d'une voix égale et harmonieuse. Un jeune homme des plus accomplis et qui mérite votre attachement. Recevez donc mes adieux, chère Lucienne, ajouta-t-il. Il prit la main de sa maîtresse et la baisa. Qui sait ce que nous réserve l'avenir? Lui répondit Lucienne souriante, bien qu'un peu interdite. Rostange n'est qu'un caprice irrésistible. Et maintenant, ajouta-t-elle après un bref silence, continuez, mon ami, je vous prie. Je voudrais apprendre avant de nous quitter ce qui donne le droit aux grands artistes de t'en dédaigner les façons des autres hommes. Un instant se passa, terrible, muet, entre les deux amants. Nous ressentons en un mot les sensations ordinaires, reprit Maximilien, avec autant d'intensité que quiconque. Oui, le fait naturel, instinctif d'une sensation, nous l'éprouvons physiquement, tout comme les autres, mais c'est seulement tout d'abord que nous le ressentons de cette manière humaine. C'est la presque impossibilité d'exprimer ces prolongements immédiats en nous qui nous fait paraître comme paralysés presque toujours en bien des circonstances, au moment où les autres hommes sont déjà parvenus à l'oubli, faute de vitalité suffisante. Elle grandit son autre être, tenez, comme le rumeur de la houle lorsqu'on approche de la mer. Ce sont les perceptions de ces prolongements occultes, de ces infinies et merveilleuses vibrations, qui seules déterminent la supériorité de notre race. De là, ces discordances apparentes entre les pensées et les attitudes lorsque l'un d'entre nous, par exemple, essaie de traduire à la manière de tout le monde ce qu'il éprouve. Songez quelle distance nous sépare de ces âges primitifs du sentiment, depuis si longtemps perdus au fond de notre esprit. La tonie du son de la voix, l'anomalie du geste, la recherche de nos paroles, tout est en contradiction avec les sincérités ayant cours et avec les banalités de langage, proportionnées à la manière de ressentir de la majorité. Nous sonnons faux, on nous trouve de glace. Les femmes, en nous observant alors, n'en reviennent pas. Et s'imaginer volontiers que... nous aussi, nous allions nous démener au moins quelque peu, partir enfin pour ces mêmes nuages où il est entendu que s'y réfugient les poètes, d'après un dicton répandu à dessein par la bourgeoisie. Quel étonnement en voyant arriver précisément le contraire. La méprisante horreur qu'elles éprouvent à cette découverte pour ceux qui les avaient dupés sur notre compte passe toute borne. Et si nous tenions à la vengeance, celle-là nous serait amusante. Non, Lucienne, il ne nous agrée pas de nous mal traduire en ces manifestations mensongères où les gens se produisent. Nous nous efforcerions en vain de rendosser toute cette défroque humaine, oubliée dans notre antichambre depuis un temps immémorial. Nous nous sommes identifiés avec l'essence même de la joie, avec l'idée vive de la douleur. Que voulez-vous, c'est ainsi. Seuls entre les hommes, nous sommes parvenus à la possession d'une aptitude presque divine, celle de transfigurer. À notre simple contact, les félicités de l'amour, par exemple, ou ses tortures, sous un caractère immédiat d'éternité, c'est là notre indicible secret. Instinctivement, nous nous refusons à le laisser transparaître, pour épargner autant que possible à notre prochain la honte de nous trouver incompréhensibles. Hélas, nous sommes pareils à ces cristaux puissants ou d'or, honorant le pur esprit des roses mortes, et qui sont hermétiquement voilées d'une triple enveloppe de cire, d'or et de parchemin. Une seule larme de leur essence, de cette essence conservée ainsi dans la grande amorphe précieuse. Fortune de toute une race, et quand l'on se transmet par héritage, comme un trésor sacré tout béni par les aïeux, suffit à pénétrer bien des mesures d'eau claire, je vous assure, Lucienne. Et celles-ci, à leur tour, suffisent à embaumer bien des demeures, bien des tombeaux, durant de longues années. Mais nous ne nous sommes point pareils, et c'est là notre crime, à ces flacons remplis de banals parfums, tristes et stériles fioles qu'on dédaigne le plus souvent de refermer et dont la vertu s'aigrit et s'évente à tous les souffles qui passent. Ayant conquis une pureté de sensations inaccessibles aux profanes, nous deviendrions menteurs à nos propres yeux. Si nous empruntions les pantomimes reçues et les expressions consacrées dont le vulgaire se contente, nous nous hâterions en conscience de le dissuader, s'il ajoutait foi, ne fût-ce qu'un instant, au premier cri que parfois nous arrache une incidence heureuse ou fatale. C'est à la juste notion de la sincérité que nous devons d'être sobres dans les gestes, scrupuleux dans les paroles, réservé dans les enthousiasmes, contenu dans les désespoirs. C'est donc la qualité de nos facultés affectives qui nous vaut ces inculpations d'ensurcissement? En vérité, chère Lucienne, si nous tenions, ce qu'à Dieu ne plaise, à cesser d'être incompris de la plupart des individus, à revendiquer de leurs entendements un autre hommage que l'indifférence, il serait à désirer en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, que dans les grandes occasions, un bon acteur vint se placer derrière nous, passa ses bras sous les nôtres, puis parla et gesticula pour notre compte. Nous serions sûrs alors de toucher la foule par les seuls côtés qui lui sont accessibles. Madame Emery considérait très pensive le comte de W. Mais vraiment, mon cher Maximilien, s'écria-t-elle, vous en viendrez à ne plus oser dire bonjour ou bonsoir de peur de paraître emprunté au commun des mortels. Vous avez des instants exquis et inoubliables, je l'avoue, et je suis fière de vous les avoir inspirés. Parfois, vous m'avez ébloui des profondeurs de votre cœur et des douces expansions de votre tendresse. Oui, jusqu'à je ne sais quel ravissement dont j'emporte à jamais l'étrange et troublant souvenir. Mais que voulez-vous? Vous m'échappez d'un regard où je ne puis vous suivre, et je ne serai jamais bien persuadée que vous éprouvez vous-même d'une manière autre qu'imaginaire ce que vous faites ressentir. C'est à cause de ceci, Max, que je ne puis que me séparer de vous. Je me résigne donc à ne pas être ordinaire. Dussé-je encourir le dédain des braves gens qui, peut-être avec raison, se jugent mieux organisés que moi, répondit le comte. Tout le monde d'ailleurs me paraît aujourd'hui plus ou moins revenu d'éprouver quoi que ce soit. J'espère qu'il y aura bientôt 400 ou 500 théâtres par capitale, où les événements usuels de la vie étant joués sensiblement mieux que dans la réalité. Personne ne se donnera plus beaucoup la peine de vivre soi-même. Lorsqu'on voudra se passionner ou s'émouvoir, on prendra une stalle, ce sera plus simple. Ce billet ne sera-t-il pas 1000 fois préférable au point de vue bon sens? Pourquoi s'épuiser en passion destinée à l'oubli? Qu'est-ce qui ne s'oublie pas un peu dans le cours d'un semestre? Ah! Si vous saviez quelle quantité de silence nous portons en nous. Mais pardon, Lucienne. Voici 10h30 et je serais indiscret de ne point vous le rappeler après votre confidence de tout à l'heure, murmura Maximilien en souriant et en se levant. Votre conclusion? Dit-elle. J'arriverai à temps. Je conclus, répondit Maximilien, que lorsqu'un quidam s'écrie « à propos de l'un d'entre nous », en se frappant les parois antérieures de la poitrine comme pour s'étourdir sur le vide qui sent lui-même. Il a trop d'intelligence pour avoir du cœur. Il est d'abord fort probable que l'équidan se fâcherait, tout rouge, si on lui répondait qu'il a, lui, trop de cœur pour avoir de l'intelligence, qui prouve qu'au fond, nous n'avons pas choisi la plus mauvaise part de l'aveu même de celui qui nous le reproche. Ensuite, remarquez-vous, ce que devient cette phrase sous une analyse attentive? C'est comme si l'on disait « Cette personne est trop bien élevée pour se donner la peine d'avoir de bonnes manières. » En quoi consistent les bonnes manières? Ce que le vulgaire, non plus que l'homme vraiment bien élevé, ne seront jamais, malgré tous les codes de civilité puérils et honnêtes. De telle sorte que cette phrase n'exprime naïvement que la jalousie instinctive et pour ainsi dire mélancolique de certaines natures en présence de la nôtre. Ce qui nous sépare, en effet, ce n'est pas une différence, c'est un infini. Lucienne se leva et prit le bras de Monsieur de W. « Je remporte de notre entretien cet axiome, dit-elle, que si contradictoires que semblent vos paroles et ou vos manières d'être, quelquefois dans les circonstances terribles ou joyeuses de votre existence, elles ne peuvent en rien que vous soyez. » De bois, acheva le comte avec un sourire. Il regardait passer les voitures lumineuses. Maximilien fit signe à l'une d'elles, qui s'approcha. Lorsque Lucienne s'y fut assise, le jeune homme s'inclina silencieusement. « Au revoir !» cria Lucienne en lui envoyant un baiser. La voiture s'éloigna. Le comte la suivit des yeux quelque temps, comme de raison, puis, remontant l'avenue, à pied, le cigare aux lèvres, il rentra chez lui au rond-point. Quand il fut seul dans sa chambre, il s'assit devant sa table de travail, prit dans un nécessaire une petite lime et parut absorbé dans le soin de se polir l'extrémité des ongles. Puis il écrivit quelques vers sur une vallée écossaise dont le souvenir lui revint, assez étrangement parmi les hasards de l'esprit. Puis il coupa quelques feuillets d'un livre nouveau, les parcourut et jeta le volume. 2 heures de la nuit sonnèrent. Il s'étira. Ce battement de cœur est vraiment insupportable, murmura-t-il. Il se leva, fit retomber les rideaux massifs et les tentures, alla vers un secrétaire, l'ouvrit, prit dans un tiroir un petit pistolet. Coup de poing. s'approcha d'un sofa, mit l'arme dans sa poitrine, sourit et haussa les épaules en fermant les yeux. Un coup sourd, étouffé par les draperies, retentit, un peu de fumée partie, bleuâtre, de la poitrine du jeune homme qui tomba sur les coussins. Depuis ce temps, lorsqu'on demande à Lucienne le motif de ses toilettes sombres, elle répond à ses amoureux d'un ton enjoué. « Ben, que voulez-vous? Le noir me va si bien. » Mais son éventail de deuil palpite alors sur son sein comme l'aile d'un phalène sur une pierre tombale. Fin de Sentimentalisme.
Le plus beau dîner du monde des contes cruels. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Les Rizanes. Conte cruel par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. Le plus beau dîner du monde. Un coup du commandeur. Un coup de Jarnac. Vieux dicton. Xanthus, le maître d'Ésope, déclara sur la suggestion du fabuliste que s'il avait parié qu'il boirait la mer, il n'avait point parié de boire les fleuves qui entrent dedans pour me servir de l'aimable français de nos traducteurs universitaires. Certes, une telle échappatoire était fort avisée, mais l'esprit de progrès aidant, ne saurions-nous en trouver aujourd'hui d'équivalente, de tout aussi ingénieuse? Par exemple, retirez au préalable les poissons qui ne sont point compris dans la gageure, filtrez. Défalcation faite de ces derniers, la chose ira de soi. Ou mieux encore, j'ai parié que je boirai la mer. Bien, mais pas d'un seul trait. Le sage doit ne jamais précipiter ses actions. Je bois lentement. Ce sera donc simplement une goutte, n'est-ce pas, chaque année. Bref, il est peu d'engagement qu'on ne puisse tenir d'une certaine façon, et cette façon pourrait être qualifiée de philosophique. Le plus beau dîner du monde. Telles furent les expressions dont se servit formellement Maître Percenoix, l'ange de l'amphithéose, pour définir d'une façon positive le repas qu'il se proposait d'offrir aux notabilités de la petite ville de D, où son étude florissait depuis 30 ans et plus. Oui, ce fut au cercle, le dos au feu, les basques de son habit sous les bras, les mains dans les poches, les épaules tendues et effacées, les yeux au ciel, les sourcils relevés, les lunettes d'or sur les plis de son front, la toque en arrière, la jambe droite repliée sur la gauche et la pointe de son soulier verni touchant à peine à terre, qu'il prononça ces paroles. Elles furent soigneusement notées en la mémoire de son vieux rival, Maître le Castelier, l'ange du parafernal, lequel, assis en face de Maître Percenoix, le considérait d'un œil venimeux à l'abri d'un vaste abat-jour vert. Entre ces deux collègues, c'était une guerre sourde depuis le lointain des âges. Le repas devenait le champ de bataille longuement étudié par Maître Percenoix et proposé par lui pour en finir. Aussi, Maître Le Castelier, forçant à sourire l'acier terni de sa face de couteau poignard, ne répondit-il rien sur le moment. Il se sentait attaqué. C'était l'aîné. Il laissait Percenoix, son cadet, parler et s'engager comme une petite folle. Sûr de lui, mais prudent, il voulait, avant d'accepter la lutte, se rendre un compte méticuleux des positions et des forces de l'ennemi. Dès le lendemain, toute la petite ville de D fut en rumeur. On se demandait quel serait le menu du dîner. Évoquant des sauces oubliées, le receveur particulier se perdait en conjectures. Le sous-préfet calculait et prophétisait des suprêmes de phénix servis sur leurs cendres, des phénicoptères inconnus voletaient dans ses rêves, il citait Apicius. Le conseil municipal relisait Pétrone, le critiquait. Les notables disaient « il faut attendre » et calmaient un peu l'effervescence générale. Tous les invités, sur l'avis du sous-préfet, prirent des amers 8 jours à l'avance. Enfin le grand jour arriva. La maison de Maître Percenoix était sise près des promenades à une portée de fusil de celle de son rival. Dès 4 heures du soir, une haie s'était formée devant la porte, sur 2 rangs, pour voir venir les convives. Au coup de 6 heures, on les signala. L'on s'était rencontrés aux promenades, comme par hasard, et l'on arrivait ensemble. Il y avait d'abord le sous-préfet, donnant le bras à Madame Lecastelier, puis le receveur particulier et le directeur de la poste, puis 3 personnes d'une haute influence, puis le docteur donnant le bras au banquier, puis une célébrité, l'introducteur du phylloxéra en France, puis le proviseur du lycée et quelques propriétaires fonciers. Maître Lecastelier fermait la marche, prisant parfois d'un air méditatif. Ces messieurs étaient en habit noir, en cravate blanche, et montraient une fleur à leur boutonnière. Madame Lecastelier, maigre, était en robe de soie couleur souris qui trotte, un peu montante. Arrivée devant le portail et à l'aspect des panonceaux qui brillaient des feux du couchant, les convives se retournèrent vers l'horizon magique. Les arbres lointains s'illuminaient, les oiseaux s'apaisaient dans les vergers voisins. « Quel sublime spectacle !» cria l'introducteur du phylloxéra en embrassant du regard l'Occident. Cette opinion fut partagée par les convives, qui humèrent un instant les beautés de la nature comme pour endorer le dîner. L'on entra. Chacun retint son pas dans le vestibule par dignité. Enfin, les battants de la salle à manger s'entr'ouvrirent. Percenoix, qui était veuf, s'y tenait seul, debout, affable. D'un air à la fois modeste et vainqueur, il fit le geste circulaire de prendre place. De petits papiers portant le nom des convives étaient placés, comme des aigrettes, sur les serviettes pliées en forme de mitre. Madame Lecastelier compta du regard les convives, espérant que l'on serait très à table. L'on était 17. Ces préliminaires terminés, le repas commença, d'abord silencieux. On sentait que les convives se recueillaient et prenaient, comme on dit, leur élan. La salle était haute, agréable, bien éclairée. Tout était bien servi. Le dîner était simple. 2 potages, 3 entrées, 3 rôtis, 3 entremets, des vins irréprochables, une demi-douzaine de plats divers, puis le dessert. Mais tout était exquis. De sorte qu'en y réfléchissant, le dîner, eu égard aux convives et à leur nature, était précisément pour eux le plus beau dîner du monde. Autre chose eût été de la fantaisie, de l'ostentation, eût choqué. Un dîner différent eût peut-être été qualifié d'atelane, eût éveillé des idées d'inconvenance, d'orgie, et Madame Lecastelier se fût levée. Le plus beau dîner du monde n'est-il pas celui qui est à la pleine satisfaction du goût de ses convives? Percenoix triomphait. Chacun le félicitait avec chaleur. Soudain, après avoir pris le café, Maître Lecastelier, que tout le monde regardait et plaignait sincèrement, se leva froid, austère, et avec lenteur prononça ces paroles au milieu d'un silence de mort. « J'en donnerai un plus beau l'année prochaine. » Puis saluant, il sortit avec sa femme. Maître Percenoix s'était levé. Il calma par son air digne l'inexprimable agitation des convives et le brouhaha qui s'était produit après le départ des Lecastelier. De toutes parts, les questions se croisaient. Comment ferait-il pour en donner un plus beau l'année prochaine, puisque celui de Maître Percenoix était le plus beau dîner du monde? Projet absurde. Équivoque. Inqualifiable. Non avenu. Risible. Puéril. Indigne d'un homme de sens. La passion l'avait emporté, lâche peut-être. On rit beaucoup. L'introducteur du phylloxéra, qui pendant le festin avait fait des mamours à Madame Lecastelier, ne tarissait pas en épigramme. « Ah, en vérité, un plus beau! Et comment cela? Oui, comment cela? La chose était des plus gaies. » Il ne tarissait pas. Maître Percenoix se tenait les côtes. Cet incident termina joyeusement le banquet. Portant au nul amphitryon, les convives, bras dessus, bras dessous, s'élancèrent à la débandade hors de la maison, précédés des lanternes de leurs domestiques. Ils n'en pouvaient plus de rire, devant l'idée saugrenue, présomptueuse même, et qui ne pouvait se discuter, de vouloir donner un plus beau dîner que le plus beau dîner du monde. Ils passèrent ainsi, fantastiques et hilares, dans la haie qui les avait attendus à la porte pour avoir des nouvelles. Puis chacun rentra chez soi. Maître Lecastelier eut une indigestion épouvantable. On craignit pour ses jours, et Percenoix, qui ne voulait pas la mort du pécheur, et qui d'ailleurs espérait encore jouir, l'année suivante, du fiasco que ferait nécessairement son collègue, envoyait quotidiennement prendre le bulletin de la santé du digne tabellion. Ce bulletin fut inséré dans la feuille départementale, car tout le monde s'intéressait au pari imprudent. On ne parlait que du dîner. Les convives ne s'abordaient qu'en échangeant des mots à voix basse. C'était grave, très grave. L'honneur de l'endroit était en jeu. Pendant toute l'année, maître Lecastelier se déroba aux questions. 8 jours avant l'anniversaire, ses invitations furent lancées. 2 heures après la tournée matinale du facteur, ce fut un branle-bas extraordinaire dans la ville. Le sous-préfet crut immédiatement de son devoir de renouveler la tournée des amers par esprit d'équité. Quand vint le soir du grand jour, les cœurs battaient. Ainsi que l'année précédente, les convives se rencontrèrent aux promenades, comme par hasard. L'avant-garde fut signalée à l'horizon par les cris de la haie enthousiaste. Et le même ciel empourprait, à l'occident, la ligne des beaux arbres, lesquels étaient de magnifiques pieds de hêtre, appartenant par préciput et hors part à maître Percenoix. Les convives admirèrent tout cela de nouveau. Puis l'on entra chez M. et Mme Lecastelier, et l'on pénétra dans la salle à manger. Une fois assis, après les cérémonies, les convives, en parcourant le menu d'un œil sévère, s'aperçurent avec une stupeur menaçante que c'était le même dîner. Était-il mystifié? À cette idée, le sous-préfet fronça le sourcil et fit en lui-même ses réserves. Chacun baissa les yeux, ne voulant point, par ce sentiment de courtoisie, de tact parfait qui distingue les personnes de province, laisser éprouver à l'amphitryon et à sa femme l'impression du profond mépris que l'on ressentait pour eux. Percenoix ne cherchait même pas à dissimuler la joie d'un triomphe qu'il crut désormais assuré. Et l'on déplia les serviettes. Oh, surprise! Chacun trouvait sur son assiette, quoi? Ce qu'on appelle un jeton de présence, une pièce de 20 francs. Instantanément, comme si une bonne fée eût donné un coup de baguette, il y eut une sorte de passé muscade, général, et tous les jaunets disparurent dans l'enchantement d'une rapidité inconnue. Seul l'introducteur du phylloxéra, préoccupé d'un madrigal, n'aperçut le Napoléon de son assiette qu'un bon moment après les autres. Il y eut là un retard. Aussi d'un air gauche, embarrassé et avec un sourire d'enfant, murmura-t-il du côté de sa voisine quelques vagues paroles qui sonnèrent comme une petite sérénade. « Suis-je étourdi? Quelle inadvertance! J'ai failli faire tomber... Maudite poche! Cependant, c'est celle qui a introduit en France. On perd souvent, faute de précaution. L'on met son argent dans un gousset par mégarde, puis au moindre faux mouvement, en déployant sa serviette, par exemple. Vlan, crac, bing, bonsoir. » Madame Lecastelier sourit en fine mouche. « Distraction des grands esprits, » dit-elle. « Ne sont-ce pas les beaux yeux qui les causent ? » répondit galamment le célèbre savant en remettant dans sa poche de montre, avec une négligence enjouée, la belle pièce d'or qu'il avait failli perdre. Les femmes comprennent tout ce qui est délicatesse, et tenant compte de l'intention qu'avait eue l'introducteur du phylloxéra, Madame Lecastelier lui fit la gracieuseté de rougir 2 ou 3 fois pendant le dîner, alors que le savant, se penchant vers elle, lui parlait à voix basse. « Paix, monsieur redouté, » murmurait-elle. Percenoix, en vraie tête de linotte, ne s'était aperçu de rien et n'avait rien eu. Il jasait en ce moment-là comme une pie borgne, et s'écoutait lui-même, les yeux au plafond. Le dîner fut brillant, très brillant. La politique des cabinets de l'Europe y fut analysée. Le sous-préfet dut même regarder silencieusement, plusieurs fois, les 3 personnes d'une haute influence, et celles-ci pour lesquelles la diplomatie n'avait dès longtemps plus d'arcane, détournèrent les chiens par une volée de calembours qui firent l'effet de pétards. Et la joie des convives fut à son comble quand on servit le nougat, qui représentait, comme l'année précédente, la petite ville de D elle-même. Vers les 9 heures de la soirée, chaque invité, en remuant discrètement le sucre dans sa tasse de café, se tourna vers son voisin. Tous les sourcils étaient haussés, et les yeux avaient cette expression atone, propre aux personnes qui, après un banquet, vont émettre une opinion. « C'est le même dîner ?»« Oui, le même. » Puis, après un soupir, un silence et une grimace méditative, « Le même, absolument. » Cependant, n'y avait-il pas quelque chose? Oui, il y avait quelque chose. Enfin là, il est plus beau. Oui, c'est curieux. C'est le même, et cependant il est plus beau. Ah, voilà qui est particulier. Mais en quoi était-il plus beau? Chacun se creusait inutilement la cervelle. On se croyait tout à coup le doigt sur le point précis qui légitimait cette impression indéfinissable de différence que chacun ressentait, et l'idée rebelle s'enfuyait comme une galatée qui ne voudrait pas être vue. Puis on se sépara pour mûrir le problème plus librement. Et depuis lors, toute la petite ville de D est en proie à l'incertitude la plus lamentable. C'est comme une fatalité. Personne ne peut éclaircir le mystère qui pèse encore aujourd'hui sur le festin victorieux de Maître le Castelier. Maître Percenoix, quelques jours après, étant plongé dans cette préoccupation, glissa dans son escalier et fit une chute dont il décéda. Le Castelier le pleura bien amèrement. Aujourd'hui, durant les longues soirées d'hiver, soit à la sous-préfecture, soit à la recette particulière, on parle, on devise, on se demande, on rêve, et le thème éternel est remis sur le tapis. On y renonce. On arrive bien à un cheveu près, comme à l'aide d'une 168e décimale. Puis l'X du rapport se recule indéfiniment entre ces deux affirmations à confondre l'esprit humain, mais qui constituent le symbole des préférences indiscutables de la conscience publique sous la voûte des cieux. Le même est cependant plus beau. Fin de Le plus beau dîner du monde.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.